כמוס כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופה נפשו להשם לפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. Le pasouk nous dit que quand on veut compter les Bnei Israël, savoir combien ils sont, il faut s'assurer que le décompte se fait avec en donnant Kofer Nefesh. Kofer Nefesh, ça veut dire kapara pour la personne. Kapara pour un nefesh. Et il faudrait savoir exactement ce que veut dire l'ifkudehem. À tous les comptes, l'ifkudehem. Qu'est-ce que ça veut dire l'ifkudehem? Qu'est-ce qu'on a ajouté de plus? Quand on a dit qu'on les comptait l'ifkudehem, par rapport à ce qu'on a déjà dit quand on a dit Kitissa et Bnei Israël. Kitissa, on traduit par quand tu vas les dénombrer, quand tu vas les compter, mais dans Tissa, il y a une élévation. Kitissa et Troche, tu vas élever littéralement la tête de chacun. Qu'est-ce qu'on ajoute quand on dit l'ifkudehem? Alors, la première lecture qu'on pourrait faire, c'est dire que ça vient nous dire combien il y a de personnes qui sont en quelque sorte libres pour une tâche bien précise. Une pekouda, c'est une tâche. Et donc, combien est-ce qu'il y a de personnes qui sont disponibles pour, je ne sais pas, pour débarrasser une chambre, ou bien pour apporter un mobilier, ou pour apporter à manger, pour faire à manger, etc. Différentes tâches. Combien est-ce qu'on peut mobiliser de personnes pour une tâche bien précise. Dans ce cas-là, on vient nous dire que le décompte en question, il doit se faire avec Kofer Nefesh. Il faut les compter avec des shkalim, en fait, ça veut dire. Mais des fois, on compte les gens, et pas pour une tâche bien précise. Et on pourrait penser que, dans ce cas-là, on peut les compter de façon classique, sans passer par un Kofer Nefesh. Mais en fait, Alpi à Kabbalah, il y a encore une autre explication possible de ce terme de l'ifkudehem. C'est que même quand on veut compter les gens pour savoir simplement combien il y en a, et pas pour les affecter à une tâche bien précise, même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les compter Israël, de la façon classique, simplement compter les gens. Et donc le verset vient nous dire que si on veut compter les Bnei Israël, même sans aucune, sans aucun projet de les affecter ou à une tâche bien précise, sans raison, donc si vous voulez, on veut simplement savoir combien ils sont là. On peut savoir, par exemple, on veut savoir, on sait combien ils étaient au début de l'année, maintenant à la fin de l'année, on voudrait savoir combien ils sont pour savoir, si ça a augmenté, si ça a baissé, etc. Là aussi, on a l'obligation de passer par Kopher Nefesh. En fait, a priori, cette explication-là, c'est l'explication de Onkelès. Onkelès a traduit Lifkudehem le Minyan. Ça veut dire simplement savoir combien ils sont. C'est-à-dire, on a enlevé la notion de Pekouda qu'il y a dans Lifkudehem. Au temps du roi David, les Bnei Israël ont reçu. Enfin, lui, il a reçu un ordre d'Hachem. Et il lui a dit, Lech, Manet Israël, va contre les Bnei Israël. Les Chazal disent dans la Gemara, chez Be'avon, chez Amar David Amelech, Im Hachem Isitra Bi. Il a dit la chaîne Hasata, c'est-à-dire s'il t'a excité en fait. Et l'avoir utilisé ça par rapport à Hachem, c'est Hachem qui a été Messite. Akadosh lui a dit, tu me traites de Messite. Le Messite, c'est le terme qu'on utilise pour quelqu'un qui entraîne les gens à la Avodazara, par exemple. Ça veut simplement dire entraîner, mais comme c'est le terme qu'on utilise pour entraîner à la Avodah Zarah, Akadosh Baruch Hu n'a pas beaucoup apprécié. Alors, tu crois que je peux entraîner pour le mal, quoi? Alors, je vais t'entraîner et tu vas te casser la figure sur quelque chose comme même les Tinokot Shel Beit Rabban, même les enfants du Cheder. Ne tomberai pas, ne se tromperai pas, et toi tu vas te casser la figure. C'est marqué, Itissa et Rosh Bnei Israël Ifkudehem, etc. Et finalement, il a compté les Bnei Israël de façon standard, sans passer par Kopher Nefesh. C'est-à-dire, il n'est pas passé par. Le style, ce que la Torah elle dit ici, Kopher Nefesh, tu passes par Marsita Shekel. Chacun donne un demi shekel. Et ça, tous les enfants savent qu'il ne faut pas compter les Bnei Israël directement. Ça, c'est a priori le pshat pashut de cette affaire, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que tous les enfants savent que quand tu dois compter, même si c'est pas pour une tâche bien précise, alors tu dois passer par Kopher Nefesh. Mais le roi David, bien que il ait eu des raisons de faire comme il a fait, mais il s'est trompé. Il pensait que ce n'est que si on compte les Bnei Israël pour savoir combien sont disponibles pour une tâche bien précise, seulement là, dans cette situation-là, on a besoin de Kopher Nefesh. Mais autrement, on n'en a pas besoin. Et là, il s'est trompé. D'après ça, on peut expliquer que l'erreur de David Ameller, ce n'était pas simplement une erreur. J'ai trompé dans un verset, quelque part, dans l'explication du verset. Parce que si c'était ça, alors n'importe lequel des conseillers de David l'aurait empêché de se tromper. On dit de... Yoav, il aurait pu ouvrir un Sefer Torah et lui montrer ce qui est écrit, qui dit ça, la paracha. Il dit, Feinstein, il dit, j'ai entendu une histoire avec le Rav Etzraïm. J'ai entendu de la dernière personne qui était auprès du Rav Etzraïm. Il a dit qui était vraiment la personne en question. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés de tous les coins du pays pour recevoir des brachot du Rav Etzraïm. À ce moment-là, c'était considéré comme un grand luxe de d'être un peu inutile, de prendre un train ou un billet spécial pour le train pour aller de Radin, pour aller à Radin, et pour rencontrer le Rav Esraim. Mais beaucoup de gens ont fait cette dépense, qui était une dépense qu'on fait pas facilement, pour recevoir une bracha du Rav Esraim. Lui, le Rav Esraim, il n'était pas très intéressé à donner des brachot. Der Klal, il trouvait les prétextes et il donnait pas de brachot en disant, mais qui suis-je moi pour donner des brachot? Je suis pas quelqu'un qui a le droit de donner des brachot. Et une fois, une femme est allée chez lui. Elle est allée lui demander une bracha pour que son fils ne soit pas mobilisé dans l'armée. Et le Rav Etzraïm l'a commencé, comme d'habitude, à refuser, disant qu'il ne peut pas. Et quand la femme a entendu que le Rav Etzraïm ne voulait pas lui donner sa bracha, elle a éclaté en sanglots, quoi. Elle a dit quoi, je me suis sacrifié pour acheter un ticket de train pour venir le voir. Et maintenant, quoi, je vais revenir les mains vides. Quand le shamash du Rav Etzraïm, quand l'aide du Rav Etzraïm a vu ça, hein, il a senti lui-même que il devait aider cette femme. Et quand le Rav Etzraïm s'est levé et qu'il est sorti de sa chambre, immédiatement, le Shamash a ouvert un Sefer Messilat Yesharim et il l'a posé ouvert sur la table, que de telle sorte que quand le Rav Etzraïm allait revenir dans sa chambre, il va s'asseoir à sa table, il va le voir devant lui. Alors, au bout de quelque temps, le Rebbe est revenu s'asseoir à sa place. Il a vu le Messilat Yesharim ouvert. Et tout de suite, il a réfléchi, il a dit, oui, peut-être que c'est pas bien que j'ai refusé de donner ma bracha à cette femme. Il a immédiatement dit à son shamash, va chercher cette femme. Tu peux probablement la trouver. Elle est peut-être dans la boulangerie. Elle est allée acheter des provisions pour le voyage. Et demande-lui de revenir. C'est ce qui s'est fait. Il l'a trouvée effectivement dans la boulangerie. Et il l'a convaincue de revenir auprès du Chofetz Chaim. Et le Chofetz Chaim lui a donné une bracha très, très chaleureuse. Ici aussi, si David HaMelech s'était trompé dans le pshat du verset, Yoav aurait dû lui faire la remarque. Et si il n'a pas eu le courage de lui dire, parce que c'était le roi, on ne peut pas parler au roi comme ça en lui faisant des reproches, quoi. Ça, c'est pas une réponse. Pas une réponse acceptable. Tu vois bien que même le shamash du Rebbe Sraïm, qui n'osait pas lui faire des reproches, mais il a trouvé un moyen. Pourquoi Yoav? Il ne pouvait pas trouver un moyen de faire ses reproches, enfin, d'empêcher David de se tromper, quoi. Il aurait dû ouvrir le Chumash sur Parchat Kitissa devant David. Que quand le compte des personnes est fait pour une tâche bien spécifique, David savait que dans ce cas-là, il faudrait passer par Martita Shekel, mais là, il était certain qu'il n'était pas en train de les compter pour une tâche bien précise et que c'est pas ça. C'est comme ça que David est arrivé à fauter dans quelque chose que les enfants, eux aussi, savent. Parce qu'il était persuadé que il avait compris le pshat du mot Lifkudehem et s'est trompé. C'est dans ce mot-là qu'il s'est trompé. Lifkudehem ne doit pas être interprété comme étant une condition pour ne compter que dans ce, quand, quand cette condition est satisfaite, alors il y a un problème, on doit passer par Martita Shekel, et autrement on n'a pas besoin. Donc David, il savait, enfin il croyait savoir le pshat, et il s'est trompé dans le pshat. On est obligé de dire comme ça que David savait tout à fait. Mais il était sûr que l'ifkoudehem venait dire, ça concerne que les gens. Kitissa, ça a l'air d'être général, mais après il y a la condition, ça concerne seulement les situations où on compte les gens pour une fonction bien précise. Et ça n'est pas vrai, ça veut dire. Donc ça, c'est une première chose. Effectivement, le conte lui-même exige un Kopher Nefesh. Et donc on peut se demander pourquoi. Effectivement, pourquoi il faut un Kopher Nefesh? Parce qu'on compte. Alors, ce que je crois, c'est que si on vous demande combien de faire la somme de trois pommes et quatre poires, on vous demande combien c'est. La réponse, c'est que c'est rien du tout. On ne peut pas les additionner. Parce que les uns, c'est des pommes et l'autre, c'est des poires. Alors comment, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut peut-être faire, c'est oublier qu'on a affaire à des pommes, oublier qu'on a affaire à des poires, et dire qu'on a affaire à des fruits. Et à ce moment-là, trois fruits plus quatre fruits, on peut répondre, oui, ça fait sept fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous comptez les choses, vous êtes obligé de vous assurer qu'on peut les additionner. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient quelque chose en commun et qui permet de les compter avec cette chose qu'ils ont en commun. C'est-à-dire, tu peux compter les gens à condition que ce soit, tu peux compter seulement les gens qui, je sais pas, qui ont, qui sont habillés en bleu et s'il y a des gens qui sont habillés en rouge ou en noir, tu peux pas les compter. Ça ne te donnera pas l'idée de combien de personnes. Tu sais seulement, il y a tant et tant de personnes qui sont habillées en noir ou en bleu. Quand on compte les gens, quand on compte les gens, on ne peut les additionner pour en avoir un compte que si on oublie ce qu'ils ont de spécifique. À la limite, quand tu comptes des personnes, alors si tu les comptes pour savoir combien tu as de soldats et que tu considères que certains, tu ne fais pas de différence entre un soldat qui pourrait être général et un soldat qui pourrait être piou-piou, d'accord? Bon, si tu enlèves ça aussi, alors tu pourras savoir combien tu as de soldats. Tu compteras les gens. Ça ne te dira pas combien de personnes tu as. Ça te dira combien tu as de soldats qui peuvent fonctionner comme chair à canon, je ne sais pas. Et donc, comme les êtres humains sont tous différents, on ne peut pas les additionner, Béclat. Donc, il faut oublier. C'est pour ça qu'on va additionner quelque chose qui. Une pièce qu'ils auraient donnée. Donc on saura combien il y a de pièces. Mais c'est les réduire quasiment à la pièce qu'ils ont donnée. Donc Kopher Nefesh, quand est-ce qu'on doit payer Kopher Nefesh? Kopher Nefesh, c'est une expression qui est utilisée quand le taureau de A a tué Monsieur B. Alors la Torah, elle dit que A est responsable. C'est-à-dire que on va juger le taureau qui a tué, mais Vegam, mais son propriétaire doit être là aussi. Il va être jugé aussi. En vérité, d'une certaine manière, il est condamné à mort. Bon, c'est le seul cas de figure où la Torah, elle a commué une peine de mort en une peine d'argent. Il va donner Kopher Nefesh. Et là-bas, on a même un problème parce que on ne sait pas de quel Nefesh il s'agit. Est-ce qu'il va donner la valeur de la personne qui a été tuée Ou est-ce qu'il va donner sa propre valeur pour racheter le fait qu'en vérité, on aurait dû le condamner à mort? Et donc, c'est lui-même qui se rachète. Ce n'est pas la valeur de la personne qui a été tuée, mais il se rachète avec ce kofer nefesh. C'est-à-dire, il obtient une kapara, kapara qu'il aurait eue si on l'avait tué, quoi, il aurait eu une kapara. Si quelqu'un y fait vidouille avant la, avant la condamn, avant le fait qu'on va le, on lui applique la peine de mort qu'il a encourue, eh bien, il aura kapara avec la mort. Et lui, il va avoir kapara. Parce qu'il a besoin d'une capara, son taureau a tué. Et bien, la capara, il va l'avoir en payant. Ce que la Torah nous a interdit de faire dans tous les autres cas, on n'a jamais le droit d'accepter que quelqu'un qui est condamné à mort, il dise par exemple, écoutez, je suis extrêmement riche, prenez tout mon argent. Avec mon argent, vous pouvez construire des hôpitaux, vous pouvez construire des orphelinats, vous pouvez donner à manger, etc., à tant et tant de personnes. Alors que si vous me tuez, si vous me tuez, alors mes enfants, ils vont hériter. C'est mes enfants qui vont hériter, vous n'aurez rien. La société n'aura rien. Vous n'aurez rien, c'est tout. Je serai mort, c'est tout. Donc à la limite, pour la société, ça pourrait être beaucoup bien plus intéressant d'avoir son argent. Mais évidemment, c'est interdit, c'est entre autres interdit, parce que ça donnerait un privilège aux gens qui ont de l'argent. Le pauvre, il ne peut pas dire, écoutez, ne me tuez pas, j'ai rien à donner, mais donc on ne peut pas avoir... Rien que pour ça, ce ne serait pas possible. Donc, il me semble... La raison pour laquelle on donne un kofer nefesh, même quand on compte les gens, parce que l'opération de compter, elle implique qu'on enlève la personnalité de chacun. C'est pour ça que Chazal disent que quand les Bnei Israël avaient été comptés par eux, ils avaient passé tous devant Moshe Rabbeinu et Aaron et aussi quelqu'un de leur tribu, on est tous présentés devant. Et Moshe Rabbeinu leur demandait comment ils s'appelaient, quelle tribu ils étaient, ils prenaient de leurs nouvelles, etc. Avec ça, on savait, voilà, on pouvait faire un compte, mais parce que, mais on n'a jamais, voilà, c'est tout, c'est, il fallait regarder, je sais pas, combien de personnes ont franchi la porte, quoi, combien de fois la porte s'est ouverte. Et on pouvait pas les compter, c'est-à-dire, chacun avait une personnalité qui devait être reconnue par celui qui comptait. Et quand on ne peut pas reconnaître la personnalité, eh bien, il faut un kofer nefesh. Donc, il me semble que c'est enfin, c'est comme ça que pour l'instant, moi, je vois la raison pour laquelle il faut un kofer nefesh dans, quand on compte quelqu'un, on compte les gens.
Oui, les principes par rapport à la chose, c'est que par. C'est plus celui qui compte.
Oui, d'ailleurs, l'interdit, c'est l'interdit de compter, et pas l'interdit d'être compté. Alors, celui qui amène, effectivement, il va donner un kofer nefesh. Ça, c'est la même, c'est ça le problème, c'est, quelque part, il a été, dépouillé, et à la limite, il se rachète lui-même, quoi, quelque part. J'ai accepté ou j'ai subi un dommage et je veux que HM, donc je vais payer pour retrouver mon identité, quoi. Quelque part, c'est vrai que celui qui compte, il n'a pas le droit, il fait, et c'est pas lui qui doit payer. C'est étonnant, effectivement. Pourquoi est-ce que c'est le compté qui doit payer et pas le compteur? Mais je crois que le compté paye parce qu'il a été dépouillé et qu'il veut retrouver quelque chose. Et je pense que ça doit être ça, quoi, quelque chose comme ça. Alors, le gros morceau de, enfin, un morceau très important dans cette paracha de Kitissa, c'est on est en plein milieu du sujet Mishkan. On est toujours en train de parler de la construction et du fonctionnement du Mishkan. Et puis, en plein milieu, il y a le problème du veau d'or. Alors, bon, je vais vous rapporter cet enseignement de David Feinstein, qui est, il me semble, très original. Le passouk, le veau d'or, c'est dans le chapitre 32. Le passouk dit que, comme vous savez, mon cher Rabbeinu est monté. Après Aseret HaDibrot, il est monté sur le Sinaï pour recevoir la Torah, c'est-à-dire recevoir les Louchot, et aussi apprendre la Torah pour qu'il puisse l'enseigner. Et ça a duré 40 jours. Et en fait, Moshe Rabbeinu n'arrivait pas du tout à apprendre la Torah. Et donc, tout à la fin, Hachem lui a donné la Torah. Il n'est pas arrivé, malgré tous ses efforts, Moshe Rabbeinu n'arrivait pas. Hachem lui a donné la Torah et il était en train de lui donner les deux louchot, les deux tables. Et tout à coup, Hachem a dit à Moshe, il lui a dit, Lech red, Yishichet amcha. Il a dit, descends. Il était sur la montagne, descends. Il voulait interrompre la transmission des louchot. Descends, ton peuple s'est fourvoyé. Alors, Moshe Rabbeinu a, curieusement, il a réussi, quand il est parti, il a tiré les louchot, il les a enlevés. Alors que Chazal disent que les louchot, elles avaient 6 tfachim de long, 60 cm de long, c'est carré, hein, deux plaques, 60 par 60. Et 20 cm dans la main de Moshe, enfin dans la main d'Hachem, si vous parlez, 20 dans la main de Moshe et 20 au milieu. Et Moshe Rabbeinu a tiré les louchot et il est parti avec les louchot. Et il est descendu. Et quand il a vu ce qui se passait, il a décidé de casser les louchot. Alors, on va revenir au début. Le peuple a vu qui Boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe Rabbeinu, Boshesh Moshe, la redet minahar. Il était en retard, Moshe. Eux, ils avaient calculé que Moshe Rabbeinu devait arriver à un certain moment, et Moshe n'est arrivé que quelques heures plus tard. A priori, l'erreur, elle était très technique. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu leur avait dit qu'il partait pour 40 jours. Et disons qu'il leur a dit ça à 10 heures du matin. Et la question c'était, quand il a parlé de 40 jours, est-ce que le premier jour, qui n'était pas un jour complet, puisqu'il est parti à 10 heures, est-ce que ce jour-là était compté ou pas compté? Et les Bnei Israël, ils ont dit que ce jour-là comptait comme premier jour. Et Moshe Rabbeinu pensait que ce jour-là ne comptait pas, il venait 40 jours entiers. Et donc il est arrivé quelques heures plus tard, quand c'était 40 jours d'après eux, mais c'était seulement le lendemain. Ils ont vu qu'il revient il est en retard. Alors, le peuple s'est rassemblé autour d'Aaron et lui ont dit, Koum aselanu Elohim, asher yelchu lefanenu. Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Parce que, voilà, ce Moshe-là, l'homme Moshe qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Donc on a besoin d'un remplaçant pour Moshe. Bon, tout le monde sait que les Bnei Israël se sont trompés dans leur compte. Et ils étaient impatients, en vérité, comme les gens qui attendent la fin de Shabbat et ils n'arrêtent pas de regarder leur montre pour savoir quand le Shabbat va finir. C'est parce qu'en vérité, ils ne veulent pas le Shabbat. Et bon, ils étaient obligés de l'accepter alors. En fait, ils ne veulent pas le Shabbat. Le clan d'Israël, en vérité, ici c'est un chidouche, hein. Le clan d'Israël, dit-il, ils espéraient que Moshe Rabbeinu ne reviendrait jamais. Parce que si Moshe Rabbeinu ne revenait pas, alors eux, ils étaient libérés du nœud que Moshe Rabbeinu avait fabriqué entre Hachem et eux. Et donc, il n'y aurait plus d'obligation de respecter et d'accomplir la Torah. Et donc, il regardait l'heure en permanence. Quand est-ce qu'ils vont pouvoir dire, vous voyez bien, mon chien n'est pas là. Il n'est pas revenu. Alors, le terme que la Torah utilise pour dire que Moshe est en retard, en fait, c'est le verbe Oshesh. Bet Shin Shin. Shin Shin, en valeur numérique, ça vaut 600. 2 x 300. La mitzvah numéro 600 dans la liste des mitzvot, c'est une mitzvah lehatzil anirdaf. On a une obligation de sauver celui qui est poursuivi. C'est-à-dire si A poursuit B pour le tuer, pour la violer, etc., on a une obligation de faire ce que nous pouvons faire pour empêcher A de faire ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que si tu peux l'arrêter d'une manière ou d'une autre, tu l'arrêtes. S'il faut lui tirer dessus ben, faut le tirer. Si tu peux tirer dans les jambes pour l'empêcher, tire dans les jambes. Mais si tu peux pas l'arrêter, sinon en lui tirant dessus, tu tires dessus. Quand quelqu'un prend le risque de poursuivre quelqu'un d'autre pour le tuer ou le violer, alors, il a rendu efker son corps, on peut le tuer, on doit le tuer. Si on peut, il faut le faire. On doit sauver, on a une mitzvah de sauver celui qui est poursuivi. Donc, la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu est en retard, qui boshesh Moshe, eux, les Bnei Israël, ont dit, C'est parce que, mon cher Abénou, il fait très attention d'accomplir cette mitzvah numéro 600. Cette mitzvah de sauver celui qui est poursuivi. Si quelqu'un n'accomplit pas la mitzvah 600, il transgresse. Alors, il transgresse un lave qui s'appelle Lo ta'amod al dam re'acha. Tu ne te tiendras pas là quand on est en train de verser le sang de ton prochain. Là, tu dois intervenir. Le clan d'Israël, ils se sont dit que la raison pour laquelle Moshe est en retard, c'est parce que il approfondit la sugya de Lo ta'amod al dam re'acha. Il est en train de travailler sur ce sujet-là. Et il sait que le chemin que nous désirons prendre va nous amener à la destruction. Ça va nous tuer. Et donc lui, il cherche un moyen de nous sauver. Alors, il faut qu'il arrive à nous sauver. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Mon cher ami, nous sait très bien que nous, en fait, la Torah, on l'a acceptée sous la contrainte. Les Bnei Israël, eux, ne voulaient pas changer. C'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait le veau. Le veau, Ayin Gimel Lamed, ça vaut 103. Kouf Gimel. La mitzvah 103, c'est la mitzvah qui nous enseigne que de brûler l'encens, le ktoret, c'est me rappeler sur la avéra de la shonara. Bon, quand il y a eu les problèmes de la Shonara, et Aaron, il a amené le Ktoret. Le clan d'Israël a pensé que de faire le Hegel, c'est bien pour eux. Et que Moshe cherche quelque chose qui n'est pas bien pour eux. Et donc, Moshe est en quelque sorte quelqu'un qui est en train de dire du lashon hara sur eux. C'est-à-dire, d'après lui, eux vont dans le mauvais chemin. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait le Hegel, parce que à leurs yeux, c'est bien. Et donc, par de ce fait-là, ce serait me rappeler sur le lashon hara de mon cher Rabbeinu. Donc, il pense que c'est comme le ktoret, quoi. Si on fait le veau, ce sera me rappeler sur le lashon hara de mon cher. Et donc, ils veulent sauver Moshe, quoi, d'une certaine manière, à leur manière. Nous connaissons tous de nombreux pirushim concernant le Hegel. Pourquoi ils se sont trompés? Comment ils se sont trompés? Mais il faut se souvenir, quelle que soit l'explication qu'on va donner sur pourquoi le Hegel et comment, etc. Mais l'idée de base, c'est que ils se sont trompés parce qu'ils voulaient se tromper. Ils n'ont pas fait une erreur. Ils voulaient se tromper. C'est tout. Et Chas v'Shalom, on n'est pas en train de dire du mal de la génération du désert, de Amidbar. Nous, on regarde simplement avec notre regard à nous sur la situation, sur ce qui s'est passé. Il faut se souvenir de ce que Chazal nous ont dévoilé dans la Mishnah, dans Sanhedrin. La Mishnah, elle dit, Shlosha Melachim, il y a trois rois qui n'ont pas chélek le Olam Haba. On a déjà parlé souvent de cette histoire. Et la Gemara, là-bas, dans Sanhedrin, elle dit, Amar Ravashi, le Machar, Niftar de Chavrin, c'est-à-dire de Menaché. Ravashi, il a dit, quand on était, les Chachamim étaient dans la Sugya de regarder qui sont les gens qui ont Chelek le Olam Haba, qui a part au monde à venir, qui n'a pas part au monde à venir. Et à un moment donné de la discussion, Ravashi a dit, demain, on va s'occuper de nos petits copains. Il voulait dire des rois, et dans les rois, on va s'occuper d'abord du roi Menaché. Menaché, c'est le fils de Chizkiyahu HaMelech, c'est ce fameux roi qui était presque Mashiach, sauf qu'il n'a pas chanté. Menaché est un roi idolâtre, idolâtre de chez les idolâtres, top niveau de l'idolâtrie. Donc il a dit, demain on va s'occuper. Il a parlé un peu légèrement de Menaché, il a traité notre petit copain, quoi, quelque part. Alors, Menaché lui est apparu en rêve. Il a dit, dis-moi, tu m'as traité de ton petit copain? Bon. Menaché, il a commencé à lui dire, mais qui tu es? Est-ce que tu as la moindre idée? Puis en passant, il lui a posé des questions auxquelles évidemment Ravachi ne pouvait pas répondre. Et en particulier, il lui a demandé, est-ce que tu sais comment on coupe le pain quand on fait motzi? Alors Ravachi lui a dit, non seulement je ne sais pas, mais je ne savais même pas qu'il y avait un endroit où il faut couper le pain. Il a dit, tu sais même pas couper le pain et tu m'appelles ton petit copain? Donc il lui a enseigné comment on coupe le pain. Parce que Ravashi lui a dit, écoute, enseigne-le-moi, demain au Beit HaMidrash, je l'enseignerai en ton nom. Qui était fait. Et Ravashi lui dit, écoute, j'ai quand même un problème. Si vous étiez tellement Chachamim que vous saviez exactement comment couper le pain quand on fait motzi, un dikdouk extraordinaire. Comment vous avez pu faire un Avodah Zarah? Comment vous avez pu faire cette bêtise d'Avodah Zarah? Vous êtes tellement grand en Torah, comment est-ce que vous avez pu faire un Avodah Zarah? Alors, Menaché lui a répondu, il a expliqué, il lui a dit, tu sais, nous, à l'époque, on avait des longs manteaux. Et nos longs manteaux nous entravaient pour marcher un peu. Mais on était content d'être entravés. Parce que comme ça, on arrivait un peu plus tard au temple idolâtre. Toi, si tu avais vécu à mon époque, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir plus vite. Toi, tu vis dans un monde où les Chachamim ont déjà obtenu d'Hachem que il enlève la viralité en quelque sorte de la Avodah Zara, le côté must de la Avodah Zara. On ne pouvait pas à cette époque-là ne pas être idolâtre. C'était pas pensable. Alors, ne nous juge pas à partir de ta position. Nous juge, nous, on n'est pas du tout dans la même position. Toi, tu as aucune idée du Yetzer Hara, de l'épreuve que ça représentait, l'idolâtrie à notre époque. Et c'est ça le problème. Nous aussi, on parle de choses qu'on ne comprend pas. Si on avait vécu à leur époque, à l'époque où effectivement on peut à la fois être medakdek dans les mitzvot, connaître ce qu'on appelle la volonté d'Hachem, et en même temps faire Avodah Zara. Il faisait la Avodah Zara en même temps que la Avodah Hachem. Il a raconté ici que quelqu'un lui racontait, il était allé en Eretz Israël, en voyage, et il voulait aller sur la tombe de Rabbi Akiva. Mais il ne savait pas le chemin pour y aller. Alors il a rencontré un Israélien, semble-t-il, chiloni, comme on dit, c'est-à-dire complètement loin de la Torah et des Mitzvot. Et il lui a demandé, est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut trouver le tombeau de Rabbi Akiva? Alors le chiloni en question, il a mis la main dans sa poche, il a sorti une kippa, il l'a mis sur sa tête, et il lui a dit, Rabbi Akiva, Zecher Tzadik Livracha, le Chaye Olam Abba, c'est ça que tu cherches? Et il lui a dit où était le kever. C'est-à-dire que le bonhomme, là, l'Israélien, il était vexé et il était très dérangé que lui, il ait parlé de Rabbi Akiva sans dire Zecher tzadik livracha l'chaye olam haba. C'est-à-dire que il supporte pas qu'on donne pas le maximum de kavod à Rabbi Akiva, au kever de Rabbi Akiva. Mais en même temps, il fait pas les mitzvot. Il pensait que de ne pas avoir dit les choses, c'est comme si on avait un peu été mezalzel. On n'a pas du tout donné le kavod qu'on doit donner à Rabbi Akiva. Alors pourquoi, s'il apprécie comme ça Rabbi Akiva, pourquoi il respecte pas la Torah? Le Tirout, c'est les choses n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il y a des gens qui connaissent leur histoire, ils connaissent les grands personnages, mais bon, ils pensent que c'est trop dur, c'est pas pour moi. Moi, bon, ils sont très très grands, mais c'est l'histoire. Moi, je peux pas faire toutes ces mitzvot. Quand Moshe Rabbeinu a fait des reproches à son frère, à Aaron, il lui a dit, comment t'as pu leur faire ça? Alors Aaron lui a dit, bah, j'ai essayé de retarder les choses, je leur ai dit que je voulais récolter tout l'or, mais c'est venu beaucoup plus vite que je pensais. Et j'ai jeté tout cet or dans le creuset et c'est sorti un Egel. Aaron a répondu à Moshe Rabbeinu qu'il n'a pas, il n'a pas fait la faute de fabriquer un Egel. Il n'a pas du tout été mechaven. Il n'avait pas l'intention de faire une quelconque figure, quelconque statue. C'est juste que quand Ribbono Shel Olam a vu que leur volonté, c'était de se faire un Egel, alors il leur a laissé faire un Egel. Bon, Aaron, lui, ça l'aurait pas dérangé si sous cet or avait fondu, c'était complètement perdu, quoi. Mais la raison pour laquelle ce qui est sorti, c'est un veau, c'est parce que c'est ça que les Bnei Israël voulaient. Et la question qu'on peut poser, c'est pourquoi les Bnei Israël voulaient Davka un veau? Le veau, c'est le symbole de Kochi veOtzem Yadi. Ma force, et c'est moi-même qui l'ai fait. C'est-à-dire que les Bnei Israël ne voulaient pas être dépendant du Ribbono Shel Olam et de se plier à sa loi, de lui exprimer de la reconnaissance pour les avoir sortis d'Égypte. Ils n'ont pas regardé sur le fait que derrière toutes ces forces qui existe, que c'est Hachem qui est derrière toutes ces forces. Ces forces agissent, mais elles n'agissent pas en étant autonomes. Elles sont dirigées, elles sont ordonnées, organisées par Hachem. Tous les idolâtres du monde avaient cette hashkafa, cette façon de voir le monde. Ils ne voulaient pas admettre, reconnaître que c'est Hachem qui donne l'intelligence aux gens qui vont dévoiler, développer la science, développer les choses. C'est Hachem qui donne tous les matériaux dont on a besoin. Il voulait cette image du veau, parce qu'il voulait être autonome. Ils étaient prêts à travailler dur, comme le veau, le bœuf qui va travailler beau dur. On va le faire travailler. Mais être libéré de la Torah, ne pas avoir à respecter la Torah. Il a donné une autre explication de ce verset de Vayaham qui Moshe Moshe. La Torah, elle nous raconte, comme toujours, que les Bnei Israël se sont trompés dans le conte, comme on a vu. Et c'est pour ça que finalement, c'est arrivé le Hegel. Et lui, il dit qu'en vérité, mon cher Rabbeinu n'est pas du tout arrivé en retard. Oui, mais dans ce cas-là, si on dit ça, alors c'est quoi le pshat qui boshesh Moshe? Mon cher Rabbeinu, il est descendu quand Hachem lui a dit de descendre. Donc c'est pas chayard de dire qu'il est en retard, dans ce quoi. Rashi explique que les Bnei Israël se sont trompés parce que ils ont cru qu'il allait revenir dans le jour numéro 40 et Moshe, il allait revenir le 40, il est revenu le 41. Donc ils se sont trompés d'un jour. Et donc, Moshe Rabbeinu n'est descendu que le lendemain, c'est-à-dire le 17 Tammuz, d'après le Cheshbon des Bnei Israël. Il aurait dû descendre le 16, et il est arrivé le 17. Et des fois, il y a des gens qui ont envie de se tromper. Mais il ne veut pas apparaître comme quelqu'un qui me méside, se trompe. Volontairement, il fait les choses. Donc, il ne veut pas que qui que ce soit lui dise quoi que ce soit et lui fasse remarquer qu'il est en train de se tromper. Parce qu'en vérité, il veut se tromper et il veut être shogeg. Il veut apparaître comme quelqu'un qui s'est vraiment trompé, pas qui a volontairement fait autrement que ce qu'il fallait faire. Mais il dit, je peux expliquer les choses un peu différemment. On sait que Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï pour recevoir les Tariag, recevoir les 613 mitzvot. Le 16 Tammuz, il était presque arrivé à la fin de l'étude de la Torah. Et donc, lui, il était dans la mitzvah Tafresh Bet, c'est-à-dire 602. C'est la gematria de Bochech. Chech, c'est 600, et avec le bête, ça fait 602. Et la mitzvah 602, c'est la mitzvah Lo yelecha bekisra, even va even, gdola uktana. Lo yelecha bevetcha, efa veefa, gdola uktana. Even Shlema v'tzedek yelach, Efa Shlema v'tzedek yelach. C'est-à-dire, il y a un interdit pour nous d'avoir chez nous des mesures, de fausses mesures. D'accord? Un poids qui est marqué 1 kilo et qui n'est pas d'un kilo, un litre qui n'est pas un litre, etc. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'il y ait chez nous aucune trace de vol et même on ne veut pas non plus quelque chose qui pourrait permettre le vol. On ne veut pas qu'il y ait des fausses mesures qui peuvent. Les Bnei Israël ont compris que si le Ribbono shel Olam donne des ordres, donc dans ces ordres, il donne cette mitzvah-là, ils ont compris, hein, la Torah, ce n'est pas pour nous. Parce que, comme disent Chazal dans la Gemara, dans la Vatra, ils disent, Rov, la majorité des gens, ils sont transgresse Gezel, et la minorité à Hayot. C'est-à-dire, Rov Bnei Adam vont trouver des terrims pour eux-mêmes dans les Issour de Gezel. Dans Issour et Hayot, ça sera seulement le Rov. Non, ça ne sera pas le Rov, pardon. Ça sera pas le Rov, ça sera le Miout. Donc l'interdit de Lo Tignov, il est, cette raison, il est avant l'interdit de Lo Tachmod. Parce que tout le monde est concerné par l'interdit de Lo Tignov. Alors que tout le monde n'arrive pas à Lo Tachmod. Si les Bnei Israël avaient entendu à ce moment-là l'interdit des fausses mesures, ils auraient dit que si on doit s'éloigner du Gezel autant que cela, alors la Torah n'est pas pour nous. S'éloigner d'Arayot, bon, ça peut encore aller. Parce que on est seulement miout dans Arayot. Mais le Gabé Gezel, la Torah, elle dit que, la Torah, elle est fixée d'après le Rov. Rabim Leatot. Et le rov nirchalim be gezel. La majorité des gens, ils se cassent la figure sur gezel. C'est par ça que c'est marqué Vayi ki boshesh Moshe. Étant donné que Moshe Rabbeinu, il était dans la mitzvah de la 602, c'est la mitzvah des Mishkalot, des poids et mesures. Ils se sont dit que la Torah, c'est pas pour nous, parce que nous, on est rov dans Gezel. Et donc, on peut pas, c'est une Torah qu'on peut pas supporter. Et par conséquent, ils ne voulaient pas. En fait, ils voulaient pas suivre Moshe. La grande chose qui se passe après cela, c'est que, d'une certaine manière, le clan avec le clan Israël, il a été condamné à mort à ce moment-là. Hachem a dit à Moshe, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais commencer un nouveau peuple avec toi. Et comme vous savez bien, mon cher Abbé a dit, je suis pas candidat. Et si tu ne leur pardonnes pas, tu peux m'effacer de ton livre. Et mon cher Abbé a gagné ici. C'est Hachem qui a cédé. C'est le Hachem qui avait dit qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient détruire ce clan. Le gars dit que ce que Moshe a obtenu, on est un peu, je vais expliquer après pourquoi on faut dire comme ça, c'est un sursis. Il a trouvé un sursis. On ne peut pas dire que Hachem a changé d'avis, c'est compliqué. Par contre, un sursis, c'est notre affaire. D'autant plus que le sursis, il est tombé au moment des explorateurs, et on voit bien que la raison pour laquelle, dans les 40 ans, tous les hommes sont morts, qui avaient plus de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, on voit bien qu'ils ne sont pas morts à cause des histoires des explorateurs. Ils sont morts à cause du veau d'or. La preuve, c'est que les femmes ne sont pas mortes. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas mortes? Parce que les femmes n'ont pas fait le veau d'or. Les femmes, elles ne voulaient pas donner l'or. Les hommes ont arraché l'or des femmes. Donc, du coup, les femmes, elles sont pas mortes dans les 40 ans. Au moment des explorateurs, tout le monde pleurait. Les hommes et les femmes. Donc, si la sanction des 40 ans, de la mort des gens était à cause des explorateurs, les femmes auraient dû mourir aussi. Donc, mon cher Abeno a obtenu qu'Hachem donne un sursis. Et dans ce sursis, il fallait bien qu'ils vivent. Mais il n'y avait plus de louchot. Et donc, mon cher Abbeinu, il a voulu que les Bnei Israël vivent normalement pendant ce sursis, quoi. Quelque part, la possibilité que le sursis ne tombe jamais. Le sursis, c'est pas fait pour tomber, c'est fait pour mettre en garde les gens pour qu'ils fassent attention de ne pas refaire de fautes qui leur feraient payer pour celle-là aussi. Et donc, il a obtenu les deuxièmes louchot. Le Hachem a redonné des louchot. Et en fait, il nous a redonné une vie qui n'a rien à voir avec la vie qu'on avait avant. Parce que c'est une vie de gens qui vivent après la faute. Avant, on était avant la faute. Ça veut dire que la Torah, elle était à un niveau ad hoc, adéquat pour nous, qui étions des gens qui, on n'avait pas fait la faute, quoi, quelque part. On n'a pas fait le veau d'or. On n'avait pas fait le veau d'or encore. Quand on a fait le veau d'or, la Torah, en quelque sorte, elle avait plus le même goût. Hein. Et c'est vrai que les louchot étaient exactement les mêmes. Il y avait sur les louchot, il était écrit ce qui était écrit sur les premières. Mais sur les premières, d'une certaine manière, on pouvait lire toute la Torah orale. Alors que la Torah orale sur les deuxièmes, il fallait la fabriquer. Les hommes devaient la faire. C'était pas. Les premières louchot, c'était pas avec le hamal, avec la nécessité de bosser vraiment. Bon, la Torah, elle est telle que si on bosse pas, c'est pas vraiment de la Torah. Une Torah qui se lit comme ça, hein, c'est pas de la Torah, tu lis les sujets juifs, mais c'est pas le travail, c'est pas du tout étudier la Torah. Mais ça, c'est le Hamal, ça fait partie de. C'est pas dit sur l'étude de la Torah d'Avraham Avinu. On dit pas qu'il a travaillé la Torah. Bon, il comprenait les choses par lui-même, il n'avait pas besoin de les étudier de l'extérieur, mais il n'y a pas cette notion de Hamal sur la Torah. Et donc Hachem il a donné un deuxième nom divin. C'est-à-dire que le tétragramme, Yud-Ké-Vav-Ké, c'est ce nom divin qui fait exister les choses. Mais le Yud-Ké-Vav-Ké qui a été donné au départ, il fait exister les choses tant qu'on ne fait pas une faute du type Avodah Zara. En fait, quand Hachem a dit « Je vais détruire le clan d'Israël », ça veut dire « Je ne m'occupe plus de faire exister le clan d'Israël ». Or, Hachem, Moshe Rabbeinu a obtenu qu'Hachem donne un deuxième exemplaire du tétragramme. C'est pour ça que dans les Shlosh Esrei Midot, on dit « Hachem, Hachem, Kel Rachum Hanun ». Pourquoi c'est marqué deux fois Hachem? Une fois, c'est le Shem qui correspond au monde sans la faute, et le deuxième Shem, c'est il fait exister un monde dans lequel les gens font des fautes, même des fautes graves, mais Shem ne détruit pas le monde. Et il a même dit comment il faut prier quand on aura fait des fautes. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a montré un shaliach tzibour avec son talit sur la tête qui récite les Shlosh Esrei Midot. Il récite Hachem, Hachem, Kel Rachum Hanun. Et Hachem dit, vous ferez comme ça et je pardonnerai. C'est même très étrange comme idée. Mais en fait, c'est ce que nous on fait à Kippour. Ben, à Kippour, ce qu'on fait, c'est en dehors des tfilotes normales qu'on fait un jour de jeûne, ça devient Neïla. Mais ce n'est pas seulement à Kippour. Quand on jeûnait pour la pluie, etc., il y avait aussi une Néhila. Et en plus de ça, on récite les Shlosh Esrei Midot. Et comme on ne peut pas les réciter comme un moulin à prière, comme ça, alors on les récite au fur et à mesure avec des piyoutim avant, des poèmes avant, des poèmes après, etc., pour créer une ambiance. Pour envelopper tous ces. Mais l'essentiel, c'est les Shlosh Esrei Midot. Les Sfaradim, ils le disent Je crois, surtout Yom Kippour, ils le disent 26 fois. L'Ashkenazim, ils disent aussi à peu près le même chiffre, mais ce n'est pas un chiffre spécial, quoi. Mais c'est ça le problème. Ça. Et donc Hachem nous a dit comment prier quand on aura fauté? On ferait comme ça. C'est ce qu'on fait à Kippour. Donc c'est un autre monde. C'est un monde d'après la faute. Et c'est probable que la Torah est une Torah qui est accessible à des gens qui ont fait la faute, quoi. Des gens qui sont après la faute de... Et la Torah est accessible. S'il y avait... Et la Torah, elle prend un manteau pour nous, qui est un manteau qui la rend accessible même à des gens qui vivent dans un monde qui est après la faute du Vaudan. Voilà, on s'arrêtait là.
Genre que la